Les podcasts du Collège de France, biologie.
Donc, je ne sais plus de quelles cellules il s'agit. Je crois que ce sont des cellules... Ce sont des fibroblastes, de nouveau. Donc, c'est des fibroblastes dans lesquels on a ici des cils. Hein, vous les voyez ici. On les voit avec le marquage par l'alpha-tubuline. Hein. Donc, ces petits trucs rouges sont ces fibroblastes qui poussent un poil, hein, un petit cil comme ça. Et ici, vous avez le marquage de smoothened, qui maintenant, vous le savez, est un récepteur pour Sonic. Mais c'est un récepteur qui ne passe dans le poil, le long du cil, que quand Sonic active patch. Hein. Sinon, ça reste au niveau de la cellule, ça ne va pas là-haut. Hein. Donc ça, vous pouvez le voir très bien ici. Si je prends Smoothen, je ne le vois pas du tout dans les poils. Hein. Mais par contre, si j'ajoute Sonic et Jog, c'est-à-dire que je stimule Patch, je vois Smoothen maintenant qui vient se mettre dans le poil. Vous voyez ici hein. Et si je prends SAG, qui mime l'effet de Sonic et Jog, qui est une molécule qui mime, en fait c'est un stéroïde, c'est un stérol, eh bien je vois que ma molécule vient migrer, elle monte là-haut. Si je prends une cellule qui est négative pour patch, c'est-à-dire que j'ai inactivé patch, à ce moment-là, Smoothen est là-haut parce que c'est patch qui le retient. Hein. Donc, si je n'ai pas de patch, il va spontanément se mettre dans le poil. Et évidemment, si je remets du patch dans mes cellules, eh bien, je perds Smoothen. Donc, on voit que l'activation du système Sonic permet à Smoothen de partir dans le poil. Et là-haut, il y a du glee. Hein, là, c'est la même chose. Je ne vais pas vous embêter de nouveau avec ça. C'est plus ou moins la même chose. On voit patch dans le poil. Là, c'est c'est un autre type cellulaire. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce sont des fibroblastes de souris. Là, c'est des coupes de moelle, en tout cas, enfin de moelle, de tube neural au niveau de la moelle épinière dans une souris au stade 9,5. Hein, c'est des souris relativement jeunes, 9,5 après le coït. Hein, encore des souris, des embryons de souris. Vous voyez ici l'expression de la tubuline dans votre tube nerveux, l'expression de patch dans le tube nerveux, le co-expression. Quand vous n'avez plus de patch, évidemment, vous ne le voyez pas, ça c'est normal. Et ici, on s'est mis au niveau de ce qu'on appelle le mésoderme paraxial, hein, qui est cette région-là. Hein. Donc vous voyez que ces cellules ont des petits poils, hein, voilà le noyau, et à la base, ici, vous avez énormément de patch, et puis vous avez patch ici, avec la tubuline, qui est dans le poil, évidemment à condition qu'on ait stimulé. Hein. Donc vous voyez ici, vous avez ces petits poils dans ces cellules qui sont des cellules mésodermiques. Donc, ça existe, donc, comme vous pouvez voir, dans tous les types cellulaires, quasiment. Donc, je reviens maintenant. Donc, pour signaler, il faut que mon facteur, enfin mon récepteur, il passe là-haut, et c'est parce que c'est là-haut que j'ai glie, et que ensuite glie est transporté par les moteurs, hein, et va pouvoir aller non dégradé, puisque je n'ai pas bloquer le voie d'accès au protéasome, non dégradé, il va pouvoir aller activer les programmes, alors qu'avant, quand il était dégradé, sous forme répressive, il réprimait les mêmes programmes. Donc c'est un switch répression-activation qui est lié à cette fixation. Mais ça nécessite ce passage, ce transport depuis le haut du poil jusqu'au noyau. Hein. Donc ici, je reprends mes trois modes de diffusion, hein, les associations par les queues hydrophobes, l'argosome, et puis en faute quelque chose qui ressemble à un exosome et qui est en fait une nodale vésiculaire parcelle, vous allez y voir. Donc, voilà de nouveau la démonstration dans un autre système qui est maintenant le système de la mouche, hein, que il me faut absolument avoir les queues lipidiques pour avoir la formation de complexes. Voilà ici donc ma molécule normale, processée, c'est-à-dire qu'elle a le cholestérol et le palmitate. Et vous voyez que je suis sous cette forme-là. 30 kg dalton, là, c'est quand je retire le cholestérol, je n'arrive plus à faire de multimère, donc je reste sous forme monomérique. Je peux aussi, évidemment, former des molécules de beaucoup plus grande taille qui sont liées probablement à la formation de ces argosomes ou de ces exosomes, entre guillemets. Mais jusqu'à, vous voyez, 4000 kg dalton, ça commence à devenir quelque chose d'assez puissant. Et si je veux tester, ça c'est dans des cellules transfectées, ça c'est dans des extraits d'embryons, d'embryons de mouche en l'occurrence, où vous voyez que c'est pareil dans l'embryon, si je prends un extrait d'embryon, j'ai dans un extrait d'embryon essentiellement mes molécules sous les formes soit de haut poids moléculaire, soit de très haut poids moléculaire, mais je n'ai pratiquement jamais de sonique sous forme monomérique, ça n'existe pas. Et maintenant, si je veux tester l'activité biologique de mes molécules, je me rends compte que les formes A, qui sont ici, sont beaucoup plus efficaces que les formes B. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la luciférase sous le contrôle de Gly. Et Gly, c'est le facteur de transcription qui est activé par Sonic. Donc, quand j'active Gly, j'active la luciférase et je peux évidemment activer, je peux compter l'efficacité de mon morphogène. Vous voyez que mon morphogène est beaucoup plus actif quand il est sous forme lourde que quand il est sous forme légère. Je ne sais pas où est le B, mais en fait, quelque part. Donc j'ai besoin de former des multimères pour être actif sur le plan biologique dans ma bestiole. Alors les poils, vous avez promis les poils, vous allez en avoir. Donc comme je dis, il y a des poils partout. Des poils, c'est en fait des structures de ce genre avec des microtubules. J'ai 9 doublets de microtubules et là j'ai 9 plus 2, j'en ai 2 au centre. Alors j'ai plusieurs façons, j'ai 9 plus 2, j'ai 9 plus 0, j'ai 9 plus 4, il y a plusieurs variétés. Donc là, je vous ai montré un 9 plus 2, et ce que vous avez ici comme type de cellule, il ne faut pas que je me trompe, parce que voilà, ça c'est l'oviduct de souris, vous voyez, il faut faire avancer les spermatozoïdes le long de l'oviduct, donc le poil ça permet de faire un courant. Pensez que le spermatozoïde est un morphogène. Au bout du compte, ça finit par être un morphogène, mais il y a des étapes intermédiaires. Mais voilà ici le cil. Ici, c'est le récepteur à l'angiopoïétine qui est fixé à l'extrémité de mon poil, de mes cils, qui sont marqués par la tubuline acétylée. En fait, c'est un anticorps anti-tubuline acétylée. Voilà. Donc vous voyez ici qu'à l'extrémité de mon cil, j'ai mon récepteur. Donc ce n'est pas un cas uniquement du récepteur de type sonique, c'est le cas de pratiquement beaucoup de récepteurs. Et ici, c'est le cas que vous connaissez bien, c'est de nouveau le cas de Sonic Hedgehog. Vous voyez qu'au niveau de l'extrémité du cil, ici, j'ai à la fois Gly2, qui est donc le facteur de transcription. Le facteur de transcription, il est loin. Il va être ramené vers le noyau à la suite de l'interaction. Et vous avez donc le facteur de transcription, et puis vous avez Smooth Node, qui est, comme vous vous rappelez maintenant, le récepteur indirect de Sonic, puisque Sonic ne se met pas directement sur Smooth Node, il se met sur Patch. Donc et vous voyez que vous avez une colocalisation à l'extrémité du cil de vos deux molécules, à condition évidemment d'avoir activé par Sonic. Plusieurs exemples de poils. Alors voilà. Je vous ai dit, il y a différents types de cils. Vous avez toujours ces 9 microtubules, mais au centre, vous avez soit 2 microtubules, soit 0 microtubule, soit 4 en l'occurrence. Quand il y en a 0, il faut faire gaffe, parce qu'en fait, ces microtubules sont extrêmement sensibles à la fixation. Donc quand on vous dit 0, peut-être qu'on se moque un peu de vous, parce que ça peut être 2. Mais deux qu'on ne voit pas parce qu'ils ont été perdus à la fixation. Les deux du centre sont extraordinairement fragiles. Donc, mais ils peuvent être aussi mobiles, motiles, comme dans le cas des cils respiratoires, des cellules ependymaires dans le cerveau, on y va y revenir, dans le système reproductif femelle, le flagelle du sperme. Donc ça, ce sont des cils motiles qui sont nécessaires au mouvement. Vous avez aussi des cils motiles dans la région nodale de l'embryon de souris, et je vais y venir très longuement. Vous allez voir ce que c'est un des cas les plus jolis de morphogènes dont la distribution est déterminée par le battement d'un cil. Et puis, l'oreille interne, évidemment, de ma collègue Christine Petit, à qui vous pouvez demander tous les renseignements sur les cils des oreilles. C'est très, 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 très bonne là-dessus. Donc, je crois qu'elle a fait l'année dernière un cours sur cette question. Hein. Donc, il y en a ici qui viennent à la répétition, quasiment. Donc, ouais. Oh, ça aide, hein, la répétition, c'est pas pour dire, mais des fois, ça fait du bien, parce que c'est quand même assez compliqué, ces histoires. Donc, ici, le rein, bien entendu, la bile, enfin les conduits biliaires, le pancréas, le cartilage, l'œil, rien n'échappe aux cils, hein, il faut le dire. Même pas moi, d'ailleurs, parce que je pensais bien que j'allais échapper aux cils pendant longtemps, mais non, en fait, vous allez voir, non. Donc voilà ici comment se fait ce cil. Voilà, je vous ai dit, vous avez neuf tubules, vous avez deux tubules à l'intérieur, vous avez de l'adénine ici à l'extérieur, vous avez une espèce de pont qui relie les tubules externes aux deux tubules internes, et puis c'est quelque chose qui mature au fur et à mesure qu'on monte dans le cil, parce qu'au début, vous savez, c'est des trimères de tubuline. Hein. Donc en fait, vous avez petit à petit la maturation du cil jusqu'au bout où vous avez un cil qui est parfaitement formé à partir de là. Donc de nouveau, vous aurez les références pour ceux d'entre vous qui me demandent, alain.prochian@ens.fr. Donc ceux qui me demandent recevront toutes les diapositives que j'aurai eu le plaisir de rassembler pour vous. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est rendu compte que le cil était probablement très impliqué dans la morphogénèse ? À cause de mutations, hein, les mutations qu'on appelait situs inversus. Il y a des gens qui ont le cœur, ça se porte à droite ou à gauche, je ne sais jamais, moi. À droite. Il y en a qui l'ont à droite. Hein. Donc, et ça, c'est des cas de situs inversus complets, vous voyez, où tous les organes sont dans le mauvais sens. Le foie, l'estomac, il y a des situs inversus, des trucs qui sont complètement alors isomères, parallèles, symétriques. Et il y en a où c'est juste du côté du thorax qu'on est dans le mauvais sens, on a gardé le bas correct, ou au contraire, côté de l'abdominal qu'on est dans le mauvais sens, etc. Donc en fait, il y a des animaux, y compris humains, qui sont comme ça, mal, disons, latéralisés. Hein. Et on s'est rendu compte que souvent, ils avaient ils étaient stériles parce que le mâle avait des spermatozoïdes qui ne bougeaient pas. Donc, tout de suite, ça a indiqué qu'il y avait quelque chose avec un problème avec les cils. Quand un spermatozoïde ne bouge pas, c'est que son cil est malade. Alors, mais où ça se passe, ça ? Donc, ça se passe là, c'est-à-dire que ça se passe. Qu'est-ce que j'avais mis avant ? Voilà. Ouais, ça, je vais revenir un peu plus tard. Ça se passe à ce niveau-là. Hein. Alors, voici ici un embryon de souris. Hein, je crois que c'est à 7,5 jours après la conception. Hein. Et il est vu de dessous. Hein. Donc, ici, vous êtes à l'avant, à l'arrière, dessous, et puis le dessus, vous ne le voyez pas parce que le dessus, il est de l'autre côté. Et ce que vous voyez ici, donc c'est le foregut, c'est la future bouche, hein, de l'embryon. Ici, c'est autre chose. Et là, vous avez ce qu'on appelle le ventral node. Hein. Ça, c'est un neural plate. Mais neural plate, je ne sais pas d'ailleurs, je ne suis pas sûr que c'est un neural plate. Comment ça s'appelle ça ? Thomas, tu dois savoir ça. Jean-Léon, non ? Tu ne sais pas ? C'est la notochord plate. Donc, mais ça, c'est cet endroit où vous allez avoir ce qu'on appelle le ventral node. Et vous voyez que c'est une petite dépression dans la région ventrale de votre embryon. Et là, vous avez des cils, hein, qui battent et qui vont envoyer des choses vers la gauche. Et si vous perdez ce petit battement ici, vos morphogènes qui sont sécrétés à ce niveau-là, ils vont se distribuer de façon homogène ou stochastique et vous allez avoir un embryon qui ne va pas être latéralisé. Alors, il y a eu plusieurs modèles. Et un des modèles, c'est celui-là, vous voyez que vous avez donc vos cellules épithéliales. Hein. Donc là, je suis dans ma zone nodale, là, dans mon espèce de petit trou à la face ventrale de mon embryon, qui n'est pas très gros. J'ai mes cellules épithéliales et j'ai deux modèles. Deux modèles qui ont été proposés pour expliquer comment ça fonctionne. Un modèle, c'est que j'ai mes cils qui battent, hein, et qui envoient mes nodales vésiculaires par 16, hein, qui sont en fait un petit peu comme ces exosomes, hein, qui les envoient de la gauche vers la droite. Hein. Et puis au moment où ils arrivent à gauche, c'est le smash, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ça éclate, et les morphogènes sont libérés et vont aller se fixer sur les poils de gauche. Donc ça va activer à gauche. Hein, donc c'est un peu comme du... Oui, j'envoie la balle, quoi, hein, de droite à gauche. Alors ça, c'est un modèle qui est sympa. Il y a un autre modèle où on se passe totalement de morphogène, c'est le modèle dit des deux cils, hein, où je bats, et donc ça me fait un flux de liquide. Et comme mon flux de liquide va arriver ici, il va incliner les cils, et de façon mécanique, ça va entraîner l'ouverture de canaux calciques qui eux-mêmes vont libérer du calcium à l'intérieur de la cellule via le réticule endoplasmique et entraîner des voies de transduction du signal, en particulier ce qu'on appelle le non-canonical Wnt signaling. Hein.
Alors, oui. Pourquoi est-ce qu'ils battent pourquoi est-ce que ça crée un flux? Est-ce que quand les cils y battent, pourquoi est-ce qu'ils y battent en même temps? Je veux dire, pourquoi est-ce que ça va créer quelque chose qui va aller dans un sens?
Parce qu'ils sont parce que oui, ils sont très organisés, et tu vas voir, ils sont d'abord dans la région postérieure de la cellule, ils sont inclinés. C'est-à-dire que quand je bats vers la gauche, je suis loin de la cellule, et quand je ramène vers la droite, je suis au contact de la cellule. Et comme j'ai des forces de résistance au contact de ma cellule, je vais moins vite au contact de la cellule, ce qui fait qu'en fait, j'ai un flux net qui va vers la gauche. Tu vas voir, j'ai... Pose de bonnes questions, David, hein, toujours. Heureusement que j'ai travaillé avant, parce que sinon je me ferais coincer. Un des modèles, donc, c'est je vais envoyer un morphogène, par exemple Sonic Hedgehog. Mon morphogène va aller se fixer sur Patch. Hein. Je vais donc libérer Smoothen, hein, et puis je vais avoir le départ de glis sur mes moteurs moléculaires, un glis activateur, non dégradé, non envoyé vers les protéasomes, et puis hop, je vais faire ça. Et l'autre possibilité, c'est que je tords mon poil, j'ai donc une pression mécanique qui est liée au flux, du coup, j'ouvre des canaux calciques, le calcium rentre, le calcium intracellulaire des poules intracellulaires est lui-même libéré, parce que le calcium entraîne la libération du calcium sur des résidus par activation des canaux de type ryanodine. Et là, je vais avoir une inversine qui va venir se fixer sur mon récepteur Frizzle, c'est le Cadouin, ça. Et je vais avoir un deuxième type de transcription qui n'est pas de type la voie bêta-caténine classique, signaling canonique par Wnt, mais ce qu'on appelle la voie de signalisation de la polarité planaire. J'aurai pas le temps cette année de vous parler de la polarité planaire, mais c'est un phénomène extraordinairement important dans le développement des embryons. J'avais pensé le faire, je me suis rendu compte que ce ne serait pas raisonnable. Donc, rappelez-vous, là, on est là. Donc, voilà, vous aviez peut-être jamais vu, certains d'entre vous, une photo d'embryon de souris au stade 7,75. C'est très précis, hein, parce qu'il faut savoir exactement quand la souris a copulé, parce que 7,5, ça veut dire une demi-nuit. Donc, il y a peut-être un type qui est là, en train de regarder quand ça se passe. À mon avis, il y a quand même un peu d'aléatoire au niveau du 0,5. Mais bon... voilà l'embryon de souris avec la head fold, hein, et puis voilà, là je suis ici, voilà mon nœud, hein, hein, la notochord plate. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nœud de Hansen, ça correspond au centre à l'élément inducteur, c'est ce qu'on appelle la lèvre dorsale du blastopore chez le xénope, c'est ce qui induit en fait le système nerveux. Alors voilà, David. Voilà donc ici un cil conventionnel avec ses 9 plus 2. Voilà les cils tels qu'on les trouve au niveau du nœud, 9 plus 0. Mais en fait, les articles récents suggèrent qu'il y a aussi des cils 9 plus 2 et que ça pourrait être un artefact de fixation. Donc, il y a toujours des artefacts de fixation quand on fait de la morphologie, il faut le savoir. Bon, ça ne change pas grand-chose au problème. Voilà ici la cavité, c'est légèrement en cavité, et j'ai mes cils qui battent, vous voyez ici, voilà les cils. Et si j'ai un mutant du cil, vous voyez que j'ai plus de cils. Donc, c'est un mutant qui empêche la construction du cil au cours du développement. Et dans un mutant comme ça, je vais avoir des situs inversus. Donc, ça, c'est clair. Évidemment, les protéines de transport sont très importantes. Ça, c'est une protéine de transport entérograde qui permet la construction du cil. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette protéine de transport, évidemment, je ne vais pas avoir de construction du cil. J'ai aussi, évidemment, des dinéines. Ça, c'est la dinéine. Des moteurs moléculaires. Enfin, vous connaissez tout ça mieux que moi, j'imagine. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est pas. Il y a des livres pour ça. Et pour répondre de nouveau à la question de David, le cil est en général sur le côté postérieur de la cellule, c'est-à-dire qu'il n'est pas au milieu de la cellule, et comme tu vois, il est incliné. C'est-à-dire que quand je vais vers la gauche, je suis en haut, et quand je vais vers la droite, je suis en bas. Ce qui fait que je n'ai pas la même force quand je suis au contact de la cellule et quand je suis éloigné de la cellule. C'est-à-dire que mes morphogènes sont... Donc, en fait, j'ai un flux net. Non, j'ai un flux dans les deux sens, mais mon flux net, il est de la droite vers la gauche. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on explique, qu'on a un flux net de morphogène de la droite vers la gauche. Comment ? À cause de la polarité planaire, probablement, Madame Tuxi-Vidal. Parce que, évidemment, dans le développement, tous ces poupées russes, on dépend toujours de l'étape précédente. Donc les cellules sont des cellules polarisées. Et la position du cil n'est pas une position qui est médiane. Elle est probablement déterminée par la position du centrosome. Et que le centrosome, il a une position particulière qui est probablement déterminée par l'étape précédente de différenciation de la cellule. Je ne peux pas vous répondre correctement à ce stade. Donc, comment ? C'est probablement la position du centrosome. Mais. Donc je pense que ça dépend des phénomènes d'établissement de polarité planaire au moment où l'épithélium se forme, parce que les épithéliums ne sont pas sont polarisés. Comme vous savez, dans tous les épithéliums, il y a un avant et il y a un arrière, et ça, c'est lié aux étapes plus antérieures du développement. Je voulais vous parler de l'établissement des polarités planaires dans les tissus, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire cette année. Alors, je suis sûr que je n'aurai pas le temps de le faire cette année. Donc, voilà de nouveau mon truc nodal, là. Et vous voyez que j'ai quelque chose qui va vers la gauche, parce que quand je regarde l'activation du calcium avec des sondes calciques fluorescentes qui permettent de voir le niveau de calcium dans mes cellules, je vois que là, j'ai beaucoup plus de calcium du côté gauche que du côté droit. Bon, c'est jamais parfait, j'ai aussi un petit peu de calcium à gauche, mais j'en ai beaucoup plus à droite, mais aussi, j'en ai beaucoup plus à gauche, Donc ça vous montre que j'ai effectivement une dissymétrie dans la construction de mon embryon à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je peux regarder, si vous voulez, ce qu'ils ont fait, ce groupe de Takeda. Alors, c'est beaucoup de papiers de Takeda, et de magnifiques papiers à vérité. Donc, ils ont mis un petit peu de dye fluorescent qui se met dans les lipides. Donc, on peut suivre les vésicules lipidiques. Et quand on fait ça, vous voyez ici, on regarde une première vésicule au temps zéro. Elle est larguée là. 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes. Vous voyez qu'elle avance vers la gauche. Et il y a le release. Donc, là, elles partent ici. Elles avancent. Elles vont. Et puis, il y a le smash. Vous voyez ici la particule qui arrive vers un côté qui est très fluorescent, parce qu'en fait, toute la fluorescence va vers la gauche. Donc, j'arrive, tac, tac, et là, je m'éclate sur les cils, et je relargue le contenu de ma vésicule, avec mes morphogènes, qui vont évidemment rencontrer les cils. Si mon morphogène, c'est sonique, il va rencontrer son patch Hein, il va faire venir ce smoothen en haut et je vais activer Gli et hop, c'est parti. Hein? Ça va? Je sais que c'est un petit peu compliqué ces histoires. Moi-même j'ai eu du mal, hein, faut pas croire. Ça me coûte du travail cette histoire. Donc c'est comme ça qu'on voit la chose aujourd'hui. Alors il y a des animaux qui sont latéralisés sans système. Hein. En particulier les poulets. Parce que les poulets, la latéralisation se fait en fait très très tôt au cours du développement par une désymétrie de ce qui passe dans les blastomères. Et donc ils n'ont pas besoin de ce système de cils. Les poissons, ils ont les deux. Ils ont une première latéralisation qui est liée à la première division, et puis ils rajoutent un petit coup de cils hein, pour bien faire. Et les mammifères, ils sont relativement homogènes au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de polarité dans l'œuf au début. Eh bien, ils ont absolument besoin de ce système de cils pour avoir une latéralisation de leur embryon. Donc, c'est assez intéressant aussi sur le plan évolutif de voir comment ça a pu fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on libère ? Parce que je vous ai dit, ça libère. C'est bien gentil, ça, mais pourquoi est-ce que ça libère ? C'est pas évident que ça libère. Faut libérer, quoi. Et oui ? Alors, dans l'œuf, j'ai du mal à imaginer qu'il y a un cil à l'intérieur de l'œuf. D'accord ? Ça, j'y crois pas du tout. Hein. Par contre, il y a les cytonèmes, si tu veux, au niveau de l'aine. On peut imaginer qu'il y a des cils aussi. Je connais pas, j'ai pas vu de papier qui indique un système de cils chez la droseau. Mais il y a sûrement des cils sur toutes les cellules de droseau, comme il y en a sur toutes les cellules. Donc, peut-être qu'il y a là du boulot pour les drosophilistes. Hein, c'est pas impossible. Mais dans l'œuf où j'ai mon bicoïde qui diffuse, est-ce que je pourrais imaginer que j'ai un cil dans l'œuf ? Alors là, ça me paraît quand même exagéré. Quand même. Même moi, qui ai peur de rien, ce n'est pas un projet de recherche que je proposerais à un étudiant. En tout cas, pas tout de suite. Donc là, c'est la démonstration, toujours par le groupe, le même groupe, non, c'est pas le même groupe, excusez-moi, que le FGF, est important pour la libération de ces vésicules, c'est-à-dire pour la formation de ces vésicules. Donc là, ce que vous avez, c'est le node, hein, maintenant vous voyez le node, maintenant vous connaissez le node par cœur, hein, et vous avez tous ces petits poils, hein. Et au sommet de ces petits poils, ce qu'on peut voir ici, c'est le récepteur de type 1 au FGF. Là, c'est le récepteur de type 2 au FGF. Et là, c'est le récepteur de type 3 au FGF. Ça, c'est l'activité kinase de mon récepteur. C'est un anticorps anti-tyrosine phosphate, donc, qui marque en fait, la partie cytoplasmique de mon récepteur. Et ça, c'est ce qui se passe si je mets un inhibiteur de la phosphorylation, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vois plus de marquage. Donc ça vous indique... Hein, qu'à la surface de mes petits poils, j'ai des récepteurs au FGF. Et maintenant, je vais pouvoir regarder ce qui se passe dans mon gradient, dans mon gradient, puisque l'activation des canaux calciques du côté gauche m'indique que mon système fonctionne. Si mon système ne fonctionne pas, je n'ai pas de calcium du côté gauche. Donc ça, c'est un bon signal qui me montre que ça marche. Donc, c'est le contrôle, ça tombe bien. Et maintenant, j'ajoute sur mon petit node ce qu'on appelle un mutant, une construction négative dominante, c'est-à-dire quelque chose qui antagonise l'action du récepteur FGF. Hein. En général, c'est un récepteur éjecteur soluble qui va aller bloquer le FGF et compéter, entrer en compétition avec le récepteur membranaire pour la molécule, pour le morphogène, pour le FGF, qui est aussi un morphogène aussi. Donc vous voyez que quand je bloque le FGF, j'ai plus d'activation. Ici, je peux utiliser mon inhibiteur des tyrosines kinases, hein, celui qui, vous voyez ici, empêche la phosphorylation du récepteur FGF. Donc si je fais ça, hein, j'ai aussi une perte. Et maintenant, je vais rajouter Sonic Hedgehog. Je vais prendre le néocalcite dominant et je vais rajouter Sonic Hedgehog. Et si je rajoute Sonic Hedgehog, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, j'ai une activation à gauche. Si je rajoute l'inhibiteur et Sonic Hedgehog, j'ai de nouveau une activation à gauche. Et si je rajoute mon inhibiteur et l'acide rétinoïque, j'ai une forte activation à gauche. Par contre, si je rajoute Indian Hedgehog, qui est un autre Hedgehog, j'ai un truc totalement ubiquitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait d'avoir bloqué le FGF, ça ne bloque pas le mouvement de mon cil, hein, parce que j'ai toujours ce flow. Donc le FGF antagonise la latéralisation de l'embryon, la droite et la gauche, mais pas en bloquant le cil, en bloquant quelque chose d'autre, qui est probablement, en fait, la sécrétion de Sonic ou d'acide rétinoïque, si j'en crois. Et ça, c'est la quantification de toute cette affaire. Donc, contentons-nous d'avoir les choses sur le plan simplement visuel. Hein. Mais les quantifications sont plutôt bonnes. Hein. Vous voyez que ça, c'est gauche. Hein. Et vous voyez que quand je rajoute Sonic Hedgehog au nicotinaminant, j'ai essentiellement du calcium à gauche. Quand je rajoute Sonic Hedgehog à SU, qui est l'inhibiteur de tyrosine kinase, j'ai essentiellement à gauche. Hein. Donc ça marche bien. Et on a pu vérifier que le fait de bloquer l'activation du FGF ne bloquait pas le mouvement du poil, ne bloquait pas le flux. Vous pouvez suivre le flux ici, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0, 5, 10, et ça, c'est avec juste le DMSO, qui est donc le solvant de l'inhibiteur, et ça, c'est avec l'inhibiteur. Vous voyez que je ne bloque pas du tout le mouvement d'une particule. Hein, si je rajoute ici, si ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite particule fluorescente dans le truc et j'ai regardé bouger. Donc, ça bouge toujours. Hein. Ça bouge toujours, mais ça ne signale plus. Ben, ça ne signale plus simplement parce que en fait, je n'ai plus la sécrétion de mes morphogènes. Donc voilà maintenant mes NVP flow, voilà ici, droite-gauche, vous voyez comment elles avancent. Hein. Ici, elles sont libérées, c'est un site de libération, avec le temps. Ici, c'est le smash, hein, je rentre comme tout à l'heure. Maintenant, je mets l'inhibiteur de tyrosine kinase. Hein. J'ai toujours ma balade, je ne la vois pas très bien d'ailleurs, enfin, il prétend que ça bouge toujours. Bon, ça bouge toujours. Ici, je mets plus Sonic Hedgehog. Ici, je mets plus l'acide rétinoïque. Hein. Ici, j'ai un situs inversus, rien ne bouge. Hein. Et qu'est-ce qui bouge ? Qu'est-ce qui est libéré ? Qu'est-ce qui est libéré dans le sauvage ? Eh bien, ce sont ces vésicules. On les voit très bien, d'ailleurs, ici. Hein. Vous voyez ici, en scanning électromicroscopique par scanning, on voit très bien ces vésicules. On peut ici, la microscopie électronique, on peut aussi les couper. Hein, vous voyez, elles sont là, hein, mais elles ne sont plus libérées. Voilà ce qui se passe, en fait. En fait, je n'ai plus de libération de vésicules. C'est ça qui se passe. J'ai toujours un mouvement, comme je vous montrais tout à l'heure, mais je n'ai plus de libération de vésicules. Elles restent, mais elles sont bien formées, mais elles restent dans la membrane, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus capables de partir dans le flou, même si le flou existe toujours. Et on peut vérifier, effectivement, que l'on a hein, du Sonic Hedgehog ou de l'acide rétinoïque à la surface. Et là, c'est Sonic avec, en microscopie électronique, on peut voir la fixation de Sonic Hedgehog à la surface de ces corps vésiculaires, hein, ces parcelles, qui sont ces gros morceaux de trucs qui font du 4000 Dalton et qui sont baladés comme ça par le flux qui est créé par le poil, hein, par le cil. Alors, je dis, il y en a partout. On va finir avec un petit peu de système nerveux. On a encore une petite 5 minutes devant nous, 5-10 minutes. Ensuite, on peut discuter. Vous savez que dans le cerveau, y compris dans le cerveau adulte, vous avez de la neurogénèse. Hein. Cette neurogénèse, elle est liée... Il y a deux endroits où il y en a essentiellement. Il y en a, c'est dans l'hippocampe, avec des cellules qui vont donner uniquement des neurones, qui sont en fait donc des progéniteurs neuronaux, des interneurones. Et puis, vous avez des cellules qui sont des vraies cellules souches, en fait, parce qu'elles peuvent donner des neurones, des oligodendrocytes et des astrocytes, seulement, hein. C'est-à-dire, elles ne vont pas donner, contrairement à ce qui a été dit, elles ne vont pas donner des cellules sanguines ou du muscle ou du foie. Bon, ça va rester quand même limité au tissu nerveux. Mais elles sont générées dans une zone qu'on appelle la zone subventriculaire, qui est au niveau du ventricule latéral, ici. Et ces cellules migrent en chaînette ils vont aller remplacer les interneurones au niveau du bulbe olfactif. Donc, en fait, chez les mammifères adultes, on remplace son bulbe olfactif environ tous les 2 mois. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, qu'on perde ces neurones dans le nez, je comprends, parce que chaque fois qu'on se mouche, on élimine une grande quantité de neurones. Donc ça repousse. Mais il se trouve que ça repousse aussi au niveau du bulbe. Les interneurones GABAergiques sont régénérés au niveau du bulbe. C'est une des grandes régions neurogéniques du système nerveux. Et donc ils sont générés au niveau du ventricule latéral, ici, et puis ils vont migrer sur le bord, là c'est le ventricule latéral, donc ils sont de l'autre côté dans le parenchyme, ils vont aller migrer vers le bulbe olfactif avec des chaînettes. Donc ce qu'on peut voir, c'est que dans ce ventricule latéral, c'est-à-dire de l'autre côté, il y a des cils. Vous voyez les cils. Donc en fait, tout votre ventricule, les petits cils qui font comme ça, et qui envoie le liquide céphalo-rachidien vers l'avant. Les cellules, elles sont de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est un épendyme, c'est un épithélium, avec ces petits poils qui battent. Et puis, de l'autre côté, dans le cerveau, vous avez ces cellules souches, entre guillemets, qui, elles, migrent aussi vers l'avant. Elles migrent dans le sens du poil, quoi. Du battement du poil. Donc, le groupe de Alvarez Bouillat avec Marc Tessier-Lavigne et Nathalie Spassky, d'ailleurs, qui a participé à ce travail, ont essayé de voir s'il y avait un lien entre le mouvement des cellules et le battement du cil. Parce que, oui, c'est sympa de penser une chose pareille. Donc, là, ils ont mis à injecter dans le ventricule latéral, avec une canule, un truc qui est opaque aux électrons. Et donc, on peut voir ici, vous voyez, on peut voir se déplacer vers l'avant. On peut aussi injecter de l'encre, vous voyez. Donc on voit qu'en fait le mouvement est un mouvement qui part de l'arrière et qui va vers l'avant. Puis c'est ici en fait ce qu'on appelle le rostral migratory stream. Là on n'est plus dans le ventricule, on est maintenant dans le parfum qui va aller vers le bulbe olfactif. On quitte, on va vers le bulbe. Mais tant qu'on est dans le ventricule latéral, le liquide céphalo-rachidien, dans ces cavités, fait ce mouvement vers l'avant. Et ça, c'est lié, évidemment, au battement des cils. Quand je dis évidemment au battement des cils, parce qu'en fait, si je supprime le battement des cils, eh bien, je n'ai plus de mouvement, comme vous allez voir. Donc, voilà ici une façon... Alors, voilà ce que je vous disais. Ici, vous êtes dans le ventricule latéral. Vous avez vos cellules qui migrent de l'autre côté de l'épendyme, mais très très, bord, très, très près du bord. Et puis ensuite, ça quitte, évidemment, puis ça va aller vers le bulbe. Donc là, c'est autre chose. Et on peut... Une cellule qui migre, ça a cette gueule-là. Et donc, on peut dire dans quelle direction une cellule migre, simplement par sa morphologie. C'est-à-dire qu'on a un process, ce qu'on appelle un leading process, qui est à l'avant. Donc si on peut colorer toutes les cellules, on peut savoir dans quelle direction les cellules se promènent. Et donc, on peut faire une analyse quantitative de toutes les cellules, dans le système, et puis on peut voir l'axe principal, c'est-à-dire que en rouge, ça va être à 180 degrés, en jaune, ça va être en bleu-orange à moins 20 degrés, etc. Et on peut faire évidemment un vecteur qui somme toutes ces informations, qui va donner le sens général, l'orientation générale de votre population cellulaire. Et le sens général, si ça ne marchait pas, je ne vous le dirais pas, mais ce qui se passe essentiellement, c'est que dans la SVZ, donc, vous avez, en fonction de la région où vous êtes, une migration soit antérieure, vous pouvez voir ici essentiellement, comme ça, et quand vous avez ici que ça va être dans ce sens-là, ça va être dans ce sens-là. Donc vous êtes comme ça et comme ça. Puis quand vous avez dans le parenchyme, vous partez, évidemment, à ce moment-là, vous êtes uniquement dans cette direction, à 0 degré, vous allez dans cette position-là. Donc vous voyez que vous avez ça, comme ça, puis ça continue. Il y en a quelques-unes qui sont entraînées dans le flux pour aller vers le bas, parce que, ça ne freine pas, les poils. Donc, il y a de la perte. Ça, c'est la vie. Donc, vous voyez ici l'organisation donc, de vos chaînes de cellules qui vont aller repeupler votre bulbe olfactif, le mien aussi. Et là, dans un mutant où je perds le battement des poils, le battement des cils, vous voyez que dans cette zone-là, je vais avoir une désorganisation complète de mon système de migration. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mouvement du liquide céphalo-rachidien, hein, chez l'adulte, hein, je suis chez l'adulte, eh bien, permet d'orienter le mouvement des neurones qui vont aller vers l'avant pour repeupler mon bulbe olfactif qui perd ses neurones, ses interneurones. Pourquoi ? Bon, à vrai dire, on n'en sait pas grand-chose, mais on a une petite idée. C'est en fait, à l'arrière de cette région-là, hein, une autre région qu'on appelle le plexus choroïde, qui sécrète des choses dans le liquide céphalo-rachidien, et en l'occurrence, il sécrète un facteur qui s'appelle SLIT, qui est un morphogène, si vous voulez. Et on sait que SLIT est indispensable pour avoir une bonne migration des cellules. Ce qui a été fait ici, c'est de se dire, tiens, finalement, si ça se trouve, le choroïde plexus sécrète SLIT. SLIT est entraîné vers l'avant par le battement des cils, re-rentre dans le parenchyme, ça c'était démontré, et donc les cellules en migration sentent le facteur et sont guidées par ce facteur. En fait, elles sont poussées en avant par ce facteur, un facteur répulsif. Une façon de le voir, c'est de prendre un plexus choroïde. Et au lieu de tracer vache avec la souris, c'est-à-dire au lieu de le laisser entièrement à l'arrière, on le greffe à l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, on a du slit qui vient des deux côtés. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Vous voyez que vous avez une migration complètement aberrante de vos cellules. C'est-à-dire que si vous greffez un plexus choroïde d'animal sauvage, wild type, à l'avant, eh bien, vous antagonisez votre migration de cellules vers les régions antérieures de votre cerveau. Mais si vous prenez la même chose avec un plexus choroïde qui est mutant pour SLIT, vous avez un effet moins prononcé. Mais en fait, vous ne restituez pas le truc complet. Il y a peut-être autre chose là-dedans. Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être d'autres morphogènes qui sont impliqués. Donc, ça, c'est assez amusant parce que ça veut dire, au fond, que votre plexus choroïde, il sécrète des choses. Ils sont envoyés par les cils, qui repassent dans le parenchyme et qui donnent une information topologique et donnent un sens de migration à vos cellules de la zone subventriculaire qui, elles, doivent migrer vers l'avant pour aller repeupler vos bulbes olfactifs. Alors, je vais me faire un peu plaisir pendant une minute. C'est pas trop, quand même. Hein. Non, même pas, vous voyez. Ça, c'est la frustration. C'est incroyable, des choses pareilles. C'est pas grave, je vais vous le raconter, c'est encore meilleur. Est-ce que je peux donc annuler ça maintenant ? Ça va être compliqué. Voilà. À la main. Donc, j'ai donc maintenant mon plexus choroïde qui est là. Hein. Voilà. Et il sécrète des bêtises dans le liquide céphalo-rachidien. Et là, j'ai tous ces petits poils hein, qui battent de façon coordonnée et qui entraînent ces morphogènes vers l'avant. Alors, dans notre laboratoire, on a démontré que le plexus choroïde, c'est plein d'un facteur de transcription qui s'appelle OTX2. Le TX2, c'est une protéine dans le domaine hein, de la famille de bicoïdes. Ça tombe bien, justement. Donc, nous formons l'hypothèse, c'est la minute de plaisir que, quand même, je mérite. Hein. Je forme l'hypothèse, j'ose le faire devant vous, pour me faire plaisir, que OTX2 est sécrété dans le liquide céphalo-rachidien et transporté vers l'avant, ici, et passe ensuite dans le parenchyme, où il exerce une action morphogénétique sur le parenchyme. Un stade extrêmement particulier, et ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je le ferai peut-être l'année prochaine, un stade très particulier, qui est ce qu'on appelle la maturation du système visuel pour la période critique. Voilà. Donc, choroïde plexus et critical period, hein, ça tombe vachement bien, parce que, à mon avis, c'est un signe du Seigneur. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est une hypothèse qu'on fait donc que dans ce cas-là, on aurait une protéine domaine de la famille ubicoïde qui serait un véritable morphogène. Moi, ça me rappelle l'œuf de mouche. Hein. Mais ça serait un œuf de mouche dans lequel il y aurait des cils à l'intérieur. Donc, c'est peut-être pas vrai chez la mouche, mais c'est peut-être vrai chez la souris, David. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. La semaine prochaine, on fera du sucre, parce qu'on va se terminer avec quelque chose d'un petit peu sucré, et je sais que ça fera plaisir à quelqu'un dans la salle. Qui me réclame du sucre depuis maintenant 8 heures, donc il y aura une heure de sucre. Et puis ensuite, on écoutera Nathalie Dostatny qui nous fera un séminaire sur le gradient de bicoïde et sur la robustesse de l'expression de Hunchback à 50% de l'axe antéro-postérieur de l'embryon. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Oui.
Ça va peut-être être contre les prostituées, mais
non.
C'est pas grave. Les plexuscoroïdes sont très abondants à côté du potent, où se trouvent effectivement de nouvelles cellules. Est-ce que là aussi, il y a un flux particulier ?
Ce n'est pas une question bête du tout. J'ai une chose qui me tracasse depuis maintenant un certain temps. C'est que l'hippocampe est extraordinairement... on a vu, enfin, pour rien te cacher... On a vu de l'OTX2 protéine dans l'hippocampe sans trouver de messager. Donc on ne sait pas d'où il vient. Moi, je pensais que ça venait du septum médian, basolatéral en fait, et que ça allait innerver l'hippocampe et que la protéine était transportée, ça c'est une autre affaire sur laquelle je viendrai plus tard, transportée depuis le septum vers l'hippocampe. Si ça se trouve, ça vient directement du plexus choroïde. Et à partir de là, l'action du morphogène sur l'hippocampe, c'est possible que TX2 ait un rôle important à jouer dans l'activité physiologique.
C'est collé.
Mais c'est aussi très très proche du thalamus dorsal, comme tu sais. Thalamus ventral, pardon. Donc, et ça m'intéresse beaucoup aussi pour d'autres raisons. Donc oui, c'est... Alors, on est en train de faire des manips pour voir si on trouve du TX2 dans le CSF, dans le liquide céphalo-rachidien. Il y a des choses intéressantes. C'est très préliminaire. Je voulais vous montrer la photo, mais bon, une fois de plus, j'ai été frustré par le Collège de France. Bon, c'est un truc... une maison frustrante. Autre question. David. Oh, pardon. Klaus.
La caria qui transporte tout ça serait dans ces vésicules lipidiques, n'est-ce pas ?
Dans le cas du nœud, oui, apparemment, oui.
Parce que la question est, chacun de ces morphogènes doit aller à un endroit déterminé, alors qui décide qui va où ? Puisque c'est toujours les mêmes liquides.
Ah bah, qui décide qui va où, c'est le problème, c'est quels sont les transporteurs ? C'est-à-dire que je sais où je suis synthétisé. En général, j'ai une source quand même. Hein. Par exemple, quand je suis dans le membre du poulet, je suis synthétisé dans la zone de la ZPR, la zone postérieure. Donc j'ai une source. Ensuite, je vais avoir un système qui permet la diffusion vers l'avant. Et ça, je pense que c'est des systèmes de transport. C'est-à-dire que soit les cils, soit l'endocytose, exocytose avec des cytosquelettes à l'intérieur de la cellule. Ceux que je ne crois plus, si tu veux, mais je peux me tromper, hein. C'est-à-dire que je suis même sûr que je me trompe, c'est-à-dire qu'on se trompe toujours en biologie. Mais ce qui me paraît le moins probable aujourd'hui, c'est que ce soit une formation d'un gradient lié à une différentielle de concentration.
Non,
voilà,
c'est
tout.
Évident d'après tout ce que tu as dit.
Oui, mais enfin bon, j'ai pu choisir les articles pour vous induire en erreur. Donc ça, c'est pas impossible.
Non, mais...
Non, mais les lipides. Non, mais ces vésicules sont transportées. C'est-à-dire que.
Oui, mais il faut savoir ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais c'est très compliqué parce que tu as le niveau transport, tu as le niveau fixation à récepteur, tu as des régulations de la signalisation. Ce sont des phénomènes beaucoup plus. Je ne veux pas dire complexes, que ça ne veut rien dire. Mais dont on connaît très très peu de choses finalement. C'est-à-dire que ce qui sort de ce système est relativement robuste. Hein, parce que, bon, d'un œuf de poulet, il sort en général un poulet et pas grand-chose d'autre. Donc, c'est un système très robuste, Mais comment on atteint cette robustesse, je n'en sais rien. Et c'est probablement une combinatoire d'énormément de voies de signalisation qui impliquent la synthèse, la diffusion, le transport, la fixation des récepteurs, les sucres complexes, les lipides, la formation des endosomes, les facteurs de transcription, combien est-ce qu'il y a de promoteurs. Donc c'est toute une chaîne qui fait qu'au bout du compte, on a un système suffisamment redondant pour que ce soit raisonnablement robuste. Voilà, donc moi je ne peux pas dire comment ça marche. Ce que je peux, c'est soulever ici des problèmes, que vous compreniez que ce n'est pas du tout aussi simple que qu'un drapeau français comme ça, avec des seuils.
Si tu permets une autre question.
Non, on a tout notre temps.
En revenant sur ces, comment ça s'appelle, les cytonèmes.
Oui.
Actin. Il y a là toutes ces particules, n'est-ce pas, qui sont sur ce que j'appelle les chaînes de perles.
Oui.
Est-ce que quelqu'un s'est intéressé à voir s'il y a de l'RNA là-dessus?
Non, mais c'est, de nouveau, c'est une excellente question, parce que, en tout cas, peut-être pas pour les cytonèmes, mais pour les cils, mais peut-être aussi pour les cytonèmes, on ne peut pas exclure une traduction locale. C'est-à-dire, pour avoir une traduction locale, alors on peut imaginer que le messager passe de cellule à cellule. Ça, pourquoi pas, hein, moi je suis ouvert à tout. Finalement, dès qu'on peut penser quelque chose, on dirait que la nature le fait. Donc, ça devient très dangereux, mais c'est tellement fin qu'imaginez qu'il y a tout l'appareil de traduction, ribosome, etc., personne n'en a jamais vu, d'accord? Dans les cônes de croissance, maintenant, c'est acquis. On ne pensait pas qu'il y avait de la traduction dans les cônes de croissance. On sait aujourd'hui qu'il y a de la traduction dans les cônes de croissance. Donc, il faut faire très attention qu'on dise que ce n'est pas possible, parce qu'en fait, donc c'est pour ça que je suis très prudent. Pour ce qui est des cils, par contre, on pourrait imaginer qu'il y a de la traduction locale au bout des cils. Moi, c'est quelque chose qui m'a effleuré. En fait, si j'avais des chlamydomonas où je pouvais raser, tu sais, comme je crois qu'on les congèle, on peut récupérer toutes les préparations de poils, de cils, et on pourrait regarder si on peut induire la traduction locale. Mais effectivement, on peut imaginer qu'il y a des messagers, pourquoi pas. Oui.
Il ne faut pas seulement penser aux messagers, il y a tout un tas de RNP, n'est-ce pas, de régulation, des régulateurs, n'est-ce pas, je pense plutôt à des facteurs.
Ah, tu veux dire des messagers, des RNP? Oui, bien sûr. Oui. Mais s'il y a des récepteurs comme SIGVEN, il peut y avoir tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas pourquoi, pas impossible. David.
Tu as parlé de cette idée de ces poils qui sont finalement.
Qui sont des cils finalement.
Hein. Et qui ont cette structure organisée de sorte qu'on arrive à avoir un flux dans un sens. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette idée donc qu'on a réfléchi, c'est celle de faire des bords. Donc, on a un morphogène. Quelque chose qui est sécrété à gauche, quelque chose qui va être sécrété à droite. Les deux doivent aller l'un contre l'autre. Donc ça veut dire que les cils sur les cellules de gauche devraient être orientées
à gauche, à droite.
Exactement, opposées à celles des cils de celles de droite. Est-ce qu'on peut penser que. Comment d'abord est-ce que.
Je crois pas qu'on ait vu des. Les endroits où on a pu regarder comment battaient les cils. Oui, pour moi, de toute façon. Oui, pourquoi? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. On fera les bords l'année prochaine. D'accord? On a beaucoup de choses l'année prochaine au programme. On a les bords, mais c'est un problème de polarité planaire, de toute façon. Donc, je te promets qu'on va parler des bords. Oui, mais je ne pense pas que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas grave. Mais je peux me tromper. Hein.
Bon, l'année prochaine.
J'espère, oui, si j'ai le temps. Je comptais faire un truc sur l'évolution du système visuel, mais on peut changer, je veux dire, c'est pas... Il faut réfléchir, oui.
Oui, il y a donc plusieurs morphogènes qui vont agir au même moment pour faire des formes plus compliquées que juste un gradient gauche droit ou haut et bas. Est-ce qu'il y a des études qui montrent interagissent
entre eux, les combinatoires de morphogènes.
Oui, pour faire quelque chose de plus dimensionné que juste un gradient.
Je ne peux pas vous dire. Là, on a peut-être vu un exemple, hein, que le FGF, par exemple, permet la libération de sonic dans le cas du ventral node. C'est-à-dire que c'est le FGF qui, quand il est mis au niveau, qu'il touche ses récepteurs, permet la libération de ces vésicules qui comportent à la fois l'acide rétinoïque. Donc ça, c'est une forme d'interaction, par exemple. Mais il y a curieusement très peu de molécules. Je ne sais pas si ça vous a pas frappé, vous, que je parle toujours des mêmes molécules. Fondamentalement, il y en a assez peu. On parle toujours des mêmes, c'est toujours la famille Sonic, la famille FGF, la famille BMP, je vais en oublier, la famille Wnt, la famille EGF. J'ai oublié quelque chose, je vois que tu rigoles, Jean-Léon. Est-ce que Notch est un morphogène? Ça, c'est une bonne question. Si c'est un morphogène, ce n'est pas un morphogène qui diffuse. Un morphogène qui ancre, c'est une protéine transmembranaire quand même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se promène. D'accord? Mais il faudra demander à Spiros. Il va venir faire ses cours bientôt, j'imagine. Donc, mais je ne voyais pas Notch comme un morphogène, mais plutôt comme un récepteur. Mais bon, c'est plutôt quelque chose qui induit un signal de lignage, Notch. Hein, c'est quelque chose qui est plutôt impliqué dans les lignages que dans cette étape très précoce de formation de forme. Mais bon, il ne faut pas être sectaire. Ça se trouve, le domaine des tracellulaires de Notch est libéré, j'en sais rien, moi, puisque l'intracellulaire déjà est libéré pour aller dans le noyau. Donc, non, je ne voyais pas Notch comme un morphogène. Mais bon, c'est un point de vue. Hein. Madame Tixivida.
Oui.
Oui, je pense qu'on l'a trouvé dans tout le plexus. Parce qu'on a une souris OTX2-GFP, dans lequel GFP était mis dans le locus OTX, et tous les choroïdes sont d'un vert.
Quel que soit le compartiment.
Ouais. Et ça, c'est. Au début, je dis, bon, on s'en fiche. Hein. Et puis finalement, on ne s'en fiche peut-être pas, quoi. Hein. Parce que ces protéines sont sécrétées, comme vous savez, donc ça veut dire qu'il y a peut-être du OTX2 qui se balade partout. J'ai tendance à le penser maintenant. Mais bon, c'est une réflexion à voix haute. Hein. Les cours ici sont faits pour ça, je crois. Bon, bah, écoutez, je vous libère. Donc, n'oubliez pas de venir la semaine prochaine. alain.prochian@ons.fr pour les premières pages. La semaine prochaine, pas pour moi, mais surtout pour Nathalie, qui est vraiment une chercheuse formidable. Donc, voilà.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.